France Musique.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Cette mai 1824, 7 mai 2024, il y a 200 ans, jour pour jour, à Vienne était créée l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de la musique, peut-être celle qui dépasse le plus le cadre artistique, la 9e symphonie de Beethoven. En quoi cette œuvre monumentale, avec son ode à la joie, avec ses solistes, avec son chœur, a-t-elle été et est-elle toujours révolutionnaire? Pourquoi est-elle devenue une sorte de métaphore de la musique classique occidentale? Comment a-t-elle acquis une portée philosophique, politique? Trois invités EES ce matin pour répondre à ces questions et d'autres encore. Elisabeth Brisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne spécialiste de la musique classique. On vous lit notamment ce mois-ci dans l'hebdomadaire Classica consacré justement à cette 9e et puis à vos ouvrages, entre autres chez Fayard, toujours de référence consacré à Beethoven, l'homme de votre vie. Magali Monnier, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Première flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'est la tradition depuis un certain nombre d'années, depuis l'arrivée de Mikko Franck notamment à la direction de l'orchestre,
oui,
de jouer en début d'année cette 9e.
Il a mis ça en place très vite après son arrivée, oui. Et c'est une jolie tradition.
On va en parler. Et puis avec nous aussi, Saskia Deville de France Musique. Bonjour Saskia.
Bonjour Jean-Baptiste.
Qui signe un nouveau podcast qui sort aujourd'hui consacré aux compositeurs. C'est la saga des sagas musicales, c'est la série des sagas musicales, 5 épisodes de 30 minutes. Et donc la 9e au programme. D'abord, même question à toutes les trois. Elisabeth Brisson, personnellement, un souvenir précis, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette 9e, à titre personnel?
À titre personnel, la joie, l'enthousiasme, j'aimerais bien faire partie des chœurs, par exemple, chanter cette musique, et ce processus d'avancée, de libération qu'il y a dans cet intérieur jusqu'à, quand on suit surtout le dernier mouvement, eh bien ce prestissimo, c'est irrésistible après toutes les différentes étapes par lesquelles on est passé.
Saskia Deville, vous avez un souvenir précis lié à la 9e symphonie de Beethoven?
Alors, pas de concert précis. Moi, c'est plus ce qui m'a marqué, c'est qu'elle est utilisée comme hymne européen, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui m'a... je pense que je devais être très petite quand j'ai découvert qu'en fait, c'était du Beethoven. Et le fait que sa musique soit justement utilisée pour, dans ce cadre-là, pour représenter une Europe unie dans la fraternité, dans la défense, dans la communauté d'intérêts, enfin, je sais que c'est quelque chose qui m'avait assez bouleversée.
Magali Monnier, la 9e, c'est quoi pour vous?
Bah, toutes ces choses que vient d'évoquer Saskia, ouais, c'est évidemment. Moi, je me souviens de la chute du mur et des moments où on l'a joué encore plus à cette occasion. Et puis, sinon, en concert depuis l'intérieur de l'orchestre, je fais une petite infidélité à mon cher Mikko Franck, parce que c'est un plaisir de le retrouver chaque début janvier pour l'interpréter. Mais un souvenir dans le théâtre antique à Orange avec Myung Woon Chung, parce que voilà, le lieu ajouté encore à la magie de l'œuvre.
Écoutez, on dirait que c'est fait exprès. Vous voici à Orange, au Théâtre Antique, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Myung Woon Chung, et c'est le début de la 9e.
Thank you.
le début de la 9e symphonie de Beethoven, ici en 2017, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Myung Woon Chung. Magali Monnier, qu'est-ce qu'on ressent quand on joue ce qu'on entend là, quand on est dans la 9e, au milieu, quand on est le 1 d'un tout?
La sensation à chaque fois de partir pour un grand voyage, enfin, même si on l'a déjà fait, il est chaque fois différent, en fait. C'est comme, c'est comme une grande ascension, mais je sais pas, à différentes heures du jour, la lumière est différente ou différentes saisons. Chaque fois est unique. Cette satisfaction d'effort intense et d'accomplissement quand on arrive au bout. Ouais. Chaque fois, c'est ça.
Elisabeth Brisson, vous parliez tout à l'heure du dernier mouvement de l'hymne à la joie, mais ce début-là de la 9e, pour vous, qu'est-ce qu'il représente ?
Une entrée dans du mystère extraordinaire. On se demande ce qui va se passer. Beethoven nous mène par la main dans une aventure, comme vous disiez, Magali. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va et on est dans une suspension. Wagner l'a bien dit aussi avant moi. Donc, on est vraiment amené à une aventure.
La dramaturgie est incroyable.
Oui. Dès le début, justement, c'est Quintavid, là. Donc, où est-on ?
Vous parliez de Wagner, d'ailleurs. Moi, j'ai appris, je ne savais pas. Il y a le podcast de Saskia, il y a celui de Christophe Zilis et des radios francophones publiques. Il y a tous vos ouvrages. Il y a ce Classica qui vient de paraître, dans lequel vous écrivez. J'ai appris que c'est la seule œuvre qui n'est pas de Wagner qui a été jouée à Bayreuth.
Oui. Ah oui, Wagner s'en est fait une pub. Dès qu'il était chef d'orchestre à Dresde, il a monté en 1846, donc il a monté la 9e avec toute une campagne de presse avant, et en ajoutant un programme où il expliquait comment il fallait écouter cette symphonie, parce qu'elle est très difficile à écouter. Et alors, le paradoxe, c'est que pour faire comprendre cette symphonie, qui est donc sur le dernier mouvement, c'est sur un texte de Schiller, eh bien, il a fait référence à Faust de Goethe.
Des choses, on en apprend beaucoup dans votre podcast qui est lancé aujourd'hui, Saskia Deville, réalisé par David Travailleur. Quelle ligne directrice vous avez pris pour aborder l'un des compositeurs les plus connus, dont on a déjà le plus parlé ?
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on se laisse d'une certaine manière aussi guider par les différents intervenants qu'on invite sur le podcast. Je pense au pianiste François Frédéric-Guy, à Gabriel Le Magadur, deuxième violon du Quatuor Eben que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Baptiste, l'historienne Hélène Delauzin, le biographe Bernard Fournier, l'historien de la musique Esteban Bouc, il y en a beaucoup. Hein. Stéphane Lerouge, spécialiste de musique de film. Puis Marie Gaborio, ça c'était vraiment très intéressant, qui est enseignante-chercheuse en littérature française et qui a étudié justement toute la réception de Beethoven durant la Troisième République. En fait, on se laisse vraiment prendre la main par ces intervenants pour construire les différents épisodes et pour essayer aussi d'un petit peu sortir de ce qu'on sait déjà, parce que c'est vrai que Beethoven, on a cette image du compositeur bougon, sourd, qui n'a pas de chance avec les femmes, mais on avait envie d'aller un petit peu plus loin, de vraiment questionner comment il est reçu aujourd'hui, comment il inspire les artistes contemporains. C'est une partie du podcast, bien sûr, on raconte sa vie, mais c'est vraiment d'inscrire Beethoven aujourd'hui, en 2024.
On va se plonger, on se met dans l'ambiance, c'est le tout début de ce podcast.
Qu'est-ce que tu pêches ?
La musique.
Ah, voilà une drôle d'idée.
Ça doit être un musicien, comme il est sensible.
Ah, tout à fait.
Beethoven, cet homme immense, cet homme dramatique, cet homme prophétique.
Il a montré assez tôt non seulement un talent pour la musique, mais en particulier comme virtuose au piano.
On sent une incroyable compassion et une acceptation de son sort vraiment très très difficile.
Il y a certains aspects de sa vie qui sont encore mystérieux.
Je suis Ludwig van Beethoven.
Voilà, c'est le décor qui est planté de cette série de podcasts, les sagas musicales de Saskia Deville. C'est lancé aujourd'hui. Alors, il y a des chapitrages, on va en reparler dans un instant, Saskia. Mais il y a notamment un mot qui revient à propos de Beethoven, à propos de la 9e symphonie. C'est le mot révolutionnaire. Quand vous jouez cette symphonie, Magali Monnier, est-ce que vous avez l'impression de faire la révolution ?
Non.
Mais est-ce que ça vous paraît une œuvre un peu en dehors du temps, comme par rapport aux concerts que vous donnez habituellement? Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier quand on joue cette neuvième?
Ah ben, on est de toute façon marqué par son histoire, hein. Je veux dire, une symphonie d'une telle longueur, avec un tel effectif, ça ne s'était jamais vu auparavant. Et oui, on a vraiment l'impression de participer d'une grande épopée. Mais de faire la révolution, non, je me sens pas cocardière ou je ne sais quoi.
Elisabeth Brisson, 7 mai 1824, qu'est-ce qui se passe à Vienne? C'est un succès d'emblée, c'est pas un scandale.
C'est les deux. C'est un succès pour les amis de Beethoven qui, c'était déjà, il y avait toute une campagne de presse là aussi. Ça a été très très préparé, hein, cette première. Et on savait qu'on allait entendre une symphonie avec des chœurs, et c'était très très controversé déjà. Mais ceux qui ont témoigné après, hein, ont dit qu'ils avaient vécu un moment historique et que c'était la plus grande joie de la vie de Beethoven.
France Musique, les 200 ans de la 9e de Beethoven.
Il est 8h42, Saskia Deville, évidemment, dans vos podcasts, dans cette saga musicale, vous évoquez aussi la 9e symphonie. Comment vous avez pensé l'aborder?
Je vais revenir sur quelque chose que Magali a dit un petit peu plus tôt, qu'à chaque fois qu'elle l'interprétait, c'était assez unique. Ce que je trouvais intéressant, on en a beaucoup discuté avec Esteban Buch, hein, donc qui est historien de la musique et qui s'est vraiment penché sur l'utilisation parfois douteuse qui a pu être faite de cette 9e symphonie, c'était effectivement à travers l'histoire comment justement cette œuvre-là, elle peut être utilisée dans des contextes extrêmement différents. Il y a bien sûr l'hymne européen dont on a déjà parlé, mais il y a aussi, ça je ne le savais pas, on apprend toujours des choses hein, quand on travaille sur une série, mais que l'actuel Zimbabwe, donc la Rhodésie à l'époque, qui était une république raciste gouvernée par un système d'apartheid, donc l'élite blanche au pouvoir s'était appropriée cette 9e symphonie comme hymne national aussi. Donc elle peut être récupérée par Hitler et les nazis, elle peut devenir hymne européen, elle peut... En fait, c'est ça qui est assez fascinant avec cette œuvre-là, c'est que, sans doute aussi, le fait de qu'il y ait ce chœur, qui soit présent, qui chante ensemble, c'est un poème de Schiller, etc., c'est que peu importe notre vision politique ou de quel bord on est, en fait, c'est une œuvre dans laquelle tout le monde se reconnaît, même des gens qui ne pourraient pas être dans la même pièce. Moi, c'est ça que je trouve assez fascinant. Et c'est ça qu'on raconte dans le podcast.
Joie, belle étincelle divine, fille de l'Assemblée des dieux, nous pénétrons, ivres de feu, ô céleste ton sanctuaire. Tes charmes assemblent ce que, sévèrement, les coutumes divisent. Tous les hommes deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce.
Voilà l'extrait avec ces lectures de Schiller de cette saga musicale consacrée à Beethoven et donc à la 9e symphonie signée Saskia Deville et David Travailleur. Elisabeth Brisson, vous avez la partition sur la table de ce studio, mais pas n'importe quelle partition. Il y a du neuf dans la 9e symphonie de Beethoven,
mais
deux siècles
après. Mais oui, c'est une partition qui a été éditée par Henle en 2020 et qui est le résultat d'un travail énorme mené par Beate Angelika Kraus dans le cadre de la Beethoven House et qui Beate Kraus a donc étudié toutes les sources. Et vous savez qu'il n'y a pas seulement la partition autographe, c'est-à-dire celle que Beethoven a utilisée le jour du 7 mai pour être à son pupitre et collaborer à la direction, mais qu'il y a énormément d'autres sources qui sont des copies qui ont été faites pour matériel d'orchestre, pour les dédicaces, et que Beethoven à chaque fois a rajouté des choses. Donc il y a énormément de matériaux, et même après le 7 mai, il a rajouté des éléments, et en particulier, il a rajouté une partition de contrebasson, que Beate Kraus a donc découvert et qu'il faut intégrer maintenant. Alors tout le monde dit, ça sert à quoi? Eh bien en fait, quand ça supporte le coryphée, et c'est un effet extraordinaire, évidemment, faut être très connaisseur pour cela. Il y avait des parties aussi de trombone, et vous savez que les parties de trombone, elles ont été trouvées dans le Narlas, enfin dans les papiers de Schubert, après sa mort, il les avait acquises, et Beethoven les avait rajoutées, et puis alors, toute l'histoire de la métronomisation. Beethoven, quand il a fait en 1824, c'était pas encore son affaire, et alors, mais l'entourage l'a un peu poussé, des différentes versions qui étaient créées.
Pour donner le bon tempo.
Bon tempo, et en fait, il n'avait pas encore fait la métronomisation au moment de l'édition en 1826 chez Schott de l'édition originale. Ça n'a été rajouté qu'après.
Bon, bah, Galimony, il va falloir réapprendre la 9e symphonie de Beethoven.
Oui, mais moi j'aime l'idée d'ajouter un contrebasson en tous les cas.
Ça vous arrive souvent d'avoir des nouvelles partitions d'orchestre comme ça, d'avoir des nouvelles versions et puis avec des variantes?
Ça arrive évidemment que le que
nouvelles éditions.
Oui, qu'il y ait de nouvelles éditions et puis avec des recherches sérieuses. Mais j'avoue que très naïvement, je discutais avec Elisabeth avant d'entrer. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait encore des choses à découvrir sur la 9e symphonie de Beethoven. C'est incroyable.
On en apprend ce matin, deux siècles après. Comment Beethoven met-il votre instrument, la flûte, à l'honneur? Comment il écrit pour elle?
Divinement. Ceci dit, dans toutes ses symphonies, la flûte est présente, très présente en fait. On a peu de temps de repos chez Beethoven. Et des choses délicates. Et alors la 9e, c'est évidemment la quintessence. On est souvent traité dans l'aigu puisque l'orchestre est très très important. Plus que dans les autres symphonies, donc tout là-haut pour qu'on nous entende, et on peut passer du fortissimo au plus extrême des pianissimo, d'une mesure à l'autre, et quand on a déjà 40 minutes de musique dans les pattes, ça commence à devenir vraiment très difficile.
D'un chef à l'autre, ça peut être très différent, comme n'importe quelle musique.
Oui, vraiment, c'est vrai.
Le début du deuxième mouvement, le Vivace de la 9e symphonie de Beethoven, toujours ici avec Myun Von Chung à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et si vous tendez l'oreille, vous entendez la flûte de Magali Monnier, première flûte solo, qui est notre invitée ce matin avec Saskia Deville. Nouveau podcast, les sagas musicales consacrées à Beethoven, ça sort aujourd'hui. Elisabeth Brisson, historienne de la musique classique. Moi, quand j'entends cette musique, je pense à un film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Alors, est-ce que Beethoven est aussi devenu une sorte de rock star avec un culte qui lui est consacré? Saskia Deville, vous parliez de Beethoven après Beethoven dans ce podcast. Qu'est-ce que vous avez découvert à cet égard-là sur ce compositeur hors norme?
C'est drôle ce que vous dites parce que c'était déjà une rock star de son vivant. Hein. Il n'a pas dû attendre sa mort pour le devenir. On a discuté justement de l'utilisation de sa musique au cinéma avec Stéphane Le Rouge, hein, qui est
journaliste spécialiste de la musique au cinéma. Ce qui était très intéressant, je trouvais, notamment, c'était que sa musique, la musique de Beethoven, effectivement, elle peut coller à plein de situations, à plein de scénarios différents, mais on a mis un petit, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Stéphane Lerouge, d'ailleurs, qui mettait un petit point sur ces films. Vous évoquiez évidemment Orange Mécanique, mais aussi Misery de Rob Reiner. C'est comment sa musique, une fois qu'elle est ajoutée à des scènes, des images qui sont d'une violence inouïe, peut permettre aux images de mieux passer. Donc une scène d'une extrême violence qui serait irregardable sans la musique, grâce à Beethoven, elle le devient.
Elisabeth Brisson, ce côté rockstar de Beethoven, ça vous agace, vous l'historienne de la musique classique, ou ça fait partie aussi de votre travail de voir comment d'autres arts populaires et d'aujourd'hui s'approprient une figure comme Beethoven?
Oui, ça fait partie de l'héritage de Beethoven. Hein. Mais je crois que dire que c'est une rockstar à son époque, c'était quelqu'un de très important. On donne toujours comme exemple son enterrement. Mmh. Il y avait 20 000 personnes à Vienne. Tous les musiciens et les compositeurs viennois étaient là pour tenir le cercueil, dont un des porteurs de flambeau qui était Schubert. Donc, et puis il y a eu des messes, des œuvres qui ont été créées exprès pour Beethoven. C'était une très grande figure et qui dément tout ce qu'on raconte sur le pauvre Beethoven qui était isolé. Hein. Il n'était pas du tout isolé. Donc, ce n'était pas tout à fait une rockstar, mais c'était quelqu'un de très important, un génie. Oui. Hein. C'était, et surtout, le génie. C'est-à-dire, d'où venait son génie? Donc, il fallait regarder son crâne et puis regarder ses partitions aussi pour voir comment il avait été formé par Albert Schweitzer, etc.
En tout cas, il y a un certain culte, hein, et même ses mèches de cheveux pour savoir de quoi il est mort.
Oui, il y a un culte, mais qu'il avait déjà, grosso modo, initialisé. Hein.
Est-ce que, selon vous, sans la 9e, Beethoven serait quand même Beethoven aujourd'hui?
Ça dépend où, mais je pense que oui, parce qu'il y a quand même la 5e, il y a la 7e, il y a la 3e.
Il n'y a pas que les symphonies.
Il n'y a pas que les symphonies, alors comme dit Proust pour les quatuors, qui créent leur propre public, enfin, il y a un peu pour tout le monde. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a un organiste de Saint-Eustache vers 1870 qui a insufflé de la musique de Beethoven dans ses homélies, enfin, dans ses parties musicales, et qui a donc beethovenisé toute la population qui allait à la messe à Saint-Eustache. Donc les Parisiens ont été beethovenisés à leur insu et ça a soutenu le culte de Beethoven.
Alors à ce sujet-là, Magali Monnier, quand vous jouez chaque mois de janvier avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck qui a institué cette tradition, la 9e symphonie de Beethoven en tout début d'année, est-ce que vous avez conscience de jouer plus qu'une simple symphonie, presque une messe laïque?
Oh oui. Vraiment, c'est notre concert du Nouvel An en quelque sorte. Donc il y a une petite dimension comme ça sacrée, je dirais maintenant. Je crois qu'on aime vraiment cette tradition et redécouvrir chaque fois cette musique, c'est sans fin, c'est un bonheur de tous les instants.
Vous savez qu'au Japon, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais les Japonais, pour eux, c'est leur musique sacrée. Ils ne peuvent pas passer un mois de décembre et un nouvel an sans participer à la 9e symphonie dans les chœurs. Partout, il y a des orchestres qui se baladent pour faire chanter les chorales. Il faut qu'ils aient... Nikko Franck a dû prendre cette tradition de cette 9e symphonie qui est absolument
indispensable. Oui, je sais plus où, il y avait eu une fois, ils avaient fait chanter 10 000 personnes.
Oui, c'est là depuis 1984, avec à Osaka, ils ont... Oui. C'est la symphonie des 1000, hein, soyez des millions, là, Umschlungen. Millionen.
Parce qu'à Deville, vous, en travaillant sur Beethoven, vous avez saisi aussi cette dimension sacré Beethoven, comme on pourrait dire sacré Charlemagne.
On l'a plutôt traité sur la réception au moment de sa mort, qu'il a justement... effectivement, il y avait pas mal de monde à son enterrement, comme Elisabeth Brisson l'a dit. Et donc, tout ce qu'il a pu... développé comme imaginaire, etc. Et c'est vrai qu'à certains moments, il a eu cette image un peu même christique, qui était liée à, effectivement, sa surdité. Hein, mais voilà, c'est comment quelqu'un dépasse son handicap pour
C'est ce qui a été absorbé dans les ondes de la 9e. On va peut-être la retrouver dans quelques instants, Magali Monnier.
Oui, mais je voulais rebondir sur votre question tout à l'heure. Je pense que même sans cette 9e symphonie, oui, Beethoven serait toujours Beethoven. Oui. Il a ajouté encore à son génie avec cette œuvre, mais il y a tellement de chefs-d'œuvre.
On ne se lâche jamais de jouer les symphonies de Beethoven quand on est dans un orchestre.
Jamais, jamais. Et je me souviens d'une jolie phrase de Marie-Nicole Lemieux, je crois, à votre micro un matin, qui m'est toujours restée, qui disait, quand on écoute le mouvement lent du concerto pour violon, il y a tout l'amour du monde là-dedans, avec son accent québécois, et ça m'est resté, c'est tellement joli, c'est vrai.
Saskia, on vous a retrouvé.
Oui, tout à fait. j'étais là. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais ce que je voulais dire en très résumé, c'est qu'effectivement, après sa mort et encore jusqu'à aujourd'hui, il y a cette image d'une personne exceptionnelle au-dessus du commun des mortels qui dépasse son handicap pour créer du sublime, qui fait qu'il a pu prendre, effectivement, que ce soit dans les représentations d'art plastique ou autre, des accents christiques, des accents religieux, quoi.
Le podcast Beethoven, saga musicale, c'est à partir d'aujourd'hui, signé Saskia Deville et David Travailleur. Elisabeth Brisson, on retrouve vos livres essentiels consacrés à Beethoven chez Fayard et cet article « La symphonie des symphonies » dans le numéro d'avril de Classica. Magali Monnier, on vous retrouve à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. On vous retrouvera bientôt au prochain concert.
Oui, à l'Auditorium, très bientôt, et avec Mikko Franck.
Je peux ajouter quelque chose de Beethoven, de Wagner, quand il était sur les barricades à Dresde en 1849. Barricade à Dresde en 1849, il y a un homme de la chapelle qui l'interpelle et lui dit « Monsieur le Kapellmeister, la divine étincelle a fait effet ». Et Wagner ajoute, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce qu'il était content que l'ancien monde soit embrasé par la révolution de Dresde. Donc la dimension révolutionnaire de la 9e.
Merci à toutes les trois. Dans le podcast de la saga Beethoven, il y a un petit medley de la 9e et de l'Ode à la joie revisitée. Nous, on va se quitter avec cette version cubaine. Merci à Flora Sternadel, Julia Macarès, Juliette Porchet, Lucas Réal, Yacine Bouzard, mais aussi Adrien Landivier, Grégory Wallon et Anne-Lise Assada.
À réécouter sur francemusique.fr.